Voix enchantées, l'émission qui donne la voix à de jeunes écrivains amateurs passionnés par l'art et sensibles à la beauté. Une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Kevin, qui a suivi une formation d'acteur à l'école du jeu à Paris pendant 4 ans. Kevin, bienvenue à toi et merci beaucoup d'avoir accepté la proposition.
Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici et de partager ce moment avec toi.
Choix de l'artiste. Comme tous les mois, l'émission commence par le choix d'un artiste qui te touche particulièrement. Alors, de qui as-tu décidé de nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Albert Camus, qui est un de mes auteurs préférés. J'ai donc découvert Albert Camus par ses romans. Donc, j'ai commencé par L'étranger, puis j'ai enchaîné assez vite avec La chute, Caligula, Le mythe de Sisyphe, qui sont aussi des classiques. Il y a eu La peste également. Mais finalement, la plus grande rencontre, et j'ai envie de dire la vraie rencontre que j'ai faite avec Albert Camus, c'est en entendant sa voix pour la première fois, en écoutant donc le discours de réception du prix Nobel en 1957.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu.
Comme je suis très intéressé par les discours, je suis tombé sur cet enregistrement de la voix d'Albert Camus, et à mon souvenir, c'est le premier auteur, première autrice, que j'affectionnais, dont j'ai entendu la voix.
Et quel effet ça t'a fait alors ?
J'ai été impressionné par l'élégance dans la voix, par la puissance de la voix, par la chaleur de la voix, par l'engagement politique qui passait par cette voix, et ce discours extrêmement bien construit, très imagé, très poétique et en même temps très concret, et qui parle donc toujours de la condition humaine et des réalités que traversait l'Europe dans cette période post-Seconde Guerre mondiale.
Donc c'est à travers un discours bien construit, on pourrait dire pareil de son écriture, que tu as eu accès, l'impression d'avoir accès directement à la sincérité de cet homme.
C'est ça, j'ai l'impression par ce discours d'avoir, un peu comme dans ses romans, mais d'avoir eu accès à sa pensée et à sa sincérité. J'ai l'impression, peut-être parce que la pensée est bien construite, j'ai la sensation que les mots ont été choisis, que les images ont été choisies. J'accède comme ça à sa sincérité et à ce qu'il pense vraiment en tant qu'homme. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on peut entendre pas mal aujourd'hui dans les médias, en ce qui concerne les politiciens, mais aussi certains artistes, où on est obligé de dissimuler, de cacher. Et là, avec ce discours du prix Nobel, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une personne qui prend la parole à une tribune. Comme il le dit, il est un peu contraint d'être là, il est exposé un peu malgré lui. Mais à ce moment-là, il a le courage d'exprimer face à une foule, face au monde, qui l'observe et qui le regarde, sa pensée.
Donc il y a une forme de noblesse et peut-être d'élégance dans la personne et dans les mots. Tu parlais tout à l'heure de son roman L'étranger, où il y a une absence de sens ressentie par le personnage principal dans des non-lieux comme le désert, le soleil ardent, le vide en fait. Est-ce que pour toi, le fait d'écrire sur l'absurdité de l'existence, sur le non-sens de la vie, permet aux gens de se reconnaître et peut-être de donner du sens à leur vie?
Moi, ce que je lis de l'œuvre d'Albert Camus, c'est énormément de personnages qui sont très seuls, perdus, qui vraiment se débattent avec l'existant. Je pense que c'est un peu notre cas à tous. Lui, dans ses œuvres, dans ses romans, dans sa poésie, dans sa philosophie. Et je pense qu'en dressant ses portraits, il nous permet de mieux appréhender ce qu'est l'existence, ce qu'est la vie, les difficultés qu'on peut affronter. Et c'est en ça que son œuvre est importante, c'est qu'elle nous permet de prendre du recul sur nos vies, parfois de relativiser, d'une certaine façon d'observer qu'au fond, on est tous un peu pareils, avec les mêmes peurs, les mêmes difficultés. Et c'est pour moi une façon de nous aider à donner du sens.
Coup de cœur musical. C'est le moment du partage de ton coup de cœur musical. Peux-tu nous annoncer le nom de l'artiste et le titre de la chanson ?
The Weeknd et Labyrinth, Losers.
teachers go to school. I taught myself how to move. I'm not the type to count on you. Cause stupid's next to I love you. No, so what can you show me that my heart don't know already? We make our own sense, and you're qualified in me. What can you show me that my heart don't know already? We make our own sense, and you're qualified in me.
The Weeknd et Labyrinth, c'est deux artistes que j'écoutais déjà séparément. J'ai adoré immédiatement cette musique quand je l'ai entendue. C'est l'air et les instruments. Il y a un côté très moderne et très groovy qui m'a attrapé tout de suite. Il y a quelque chose de très énigmatique dans la voix de The Weeknd que j'adore. De beaucoup plus chaud et soul et blues dans la voix de Labyrinth qui aussi m'a saisi. Dans ce morceau, il y a deux phrases que j'adore. La première, c'est « Only losers go to school », donc c'est qu'on pourrait traduire par « il n'y a que les losers, les perdants qui vont à l'école ». Sous-entendu que certaines des leçons et des compétences les plus importantes à apprendre dans la vie, c'est pas à l'école qu'on va les apprendre, mais c'est à l'extérieur, c'est dans le monde, en se confrontant au réel. La deuxième, c'est « What can you show me that my heart don't know already », qu'on pourrait traduire par « Qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apprendre de plus que mon cœur ignore, que je ne sais pas ou que mon intuition n'a pas déjà capté ?»
Donc c'est un peu ce que la rappeuse Sheila dit dans une de ses chansons où elle dit « On nous apprend la philosophie, mais pas à esquiver les coups. »
Exactement. Je pense que c'est ce sentiment-là.
De l'école de la vie, en fait.
Exactement. Et qu'elle est très importante et que c'est pas forcément sur les bancs de la fac qu'on se construit et qu'on devient un être humain.
Mais alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'aller à l'école, c'est être un loser ? Il y a quand même une différence.
Non, c'est évident qu'à l'école, on apprend énormément de choses importantes. Mais ce que j'aime dans cette musique, c'est cette impertinence. Soit de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité ou la possibilité de s'exprimer à l'école. Donc pour certains, prennent leur revanche à l'extérieur, en fait, en se formant différemment et en allant apprendre des compétences très importantes pour la vie à l'extérieur, ou alors qu'ils finissent par réussir alors qu'on leur avait dit « Tu es mauvais à l'école, tu es mauvaise à l'école, donc tu réussiras pas dans la vie. » Et donc je pense que c'est cette impertinence, ce pied de nez que j'adore dans cette musique. Le côté bad boy, bad girl, que j'aime beaucoup.
Et donc personnellement, cette phrase « Only losers go to school », qu'est-ce qu'elle t'évoque à toi et dans quel contexte tu l'as connue ?
Quand j'ai découvert cette musique, c'était pendant ma formation de théâtre. Donc j'écoutais cette chanson le matin, sous la douche, au moment où je me préparais pour aller à l'école et pour apprendre un métier assez particulier qui est celui de comédien. Sachant que à ce moment-là, les questions que je pouvais me poser, c'était est-ce que comédien ça s'apprend ? Est-ce qu'on n'est pas comédien ? Est-ce que c'est pas juste une question de nature ? Est-ce que c'est pas des choses qu'on possède ou qu'on possède pas ? Toutes ces compétences qu'on me demandait d'avoir. Et donc moi j'adorais ce paradoxe, en fait j'ai trouvé ça plutôt drôle et amusant de chanter « Only losers go to school » au moment où moi j'allais à l'école pour me former à ce métier artistique très particulier.
Partage de texte.
Donc Kevin, tu as accepté de nous lire un texte que tu as écrit qui s'intitule « Valet noir ». Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce texte, c'est-à-dire quand est-ce que tu l'as écrit, de quoi ça parle et quelle forme il prend ?
Alors « Valet noir », c'est un texte que j'ai écrit cet été, pendant mes heures de galère. J'écrivais sur ma vie et ma famille de façon générale, et donc là c'est un petit épisode de notre histoire familiale qui est lié à mon grand-père, donc Jacques, qui est décédé quand j'avais une dizaine d'années. Le Valet noir. Je me souviens que c'était un mercredi, parce que nous étions à la maison, qu'il était midi, que nous regardions les dessins animés. Ingrid, Lloyd et moi, affalés dans le lit des parents. Le téléphone sonna une fois, puis le silence. Papa accueillit la nouvelle de la mort de son père, Jacques, avec une décontraction et un décalage habituels. Jacques est mort. Papa nous en informe. Il s'est foutu en l'air, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a fait une connerie et puis c'est tout. Jacques venait de s'exploser le crâne avec une balle de fusil, à son appartement de la Tremblade. C'est la première fois que je perdais un membre de ma famille, et la chose qui m'inquiétait, c'était de savoir si nous pourrions continuer à regarder les dessins animés. À vrai dire, Jacques, je ne le connaissais pas vraiment. Je le voyais une fois l'an, et ce que je connaissais de lui, c'est ce que mes parents en disaient pendant les disputes, quand maman reprochait à papa d'avoir tel ou tel comportement insupportable qu'il aurait directement chipé à son père. Jacques ne croyait pas en la médecine traditionnelle. Eh bien, mon père a passé des années à guérir ses bobos avec des aimants. Et il a porté une paire de lunettes à verre jaune pendant une vingtaine d'années parce que l'opticien, ami de Jacques, les lui avait prescrites. Il en a perdu son œil. Jacques, c'était Papy Black Jack. Les derniers jours de sa vie, il les avait passés au casino à dilapider sa fortune. La logique, c'était « après moi le déluge ». Je profite et je vous emmerde. L'avantage, pas de problème d'héritage. Jacques, c'était un grand bonhomme, gros nez, tache de vin rouge, grande gueule, gobe huître. Un amoureux des plaisirs de bouche, un homme de droite, un gros gaulois réfractaire. Il paraît qu'il était très beau étant jeune. Moi, je n'en sais rien, je l'ai seulement connu papy. C'est papy Jacques qui me surnommait Black Marcel. Une façon de signifier ma couleur de peau, moi le petit-fils métis, d'un papy blanc. Il le faisait parce que c'était son tempérament. Ma mère me dit parfois, Jacques, c'était un provocateur, mais il vous aimait beaucoup. Moi, j'aimerais lui adresser un mot. Rest in peace, Black Jack.
L'œuvre phare. Tableau, roman, film ou encore pièce de théâtre, de quelle œuvre vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film et j'aimerais surtout vous le recommander. C'est Moonlight de Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain. Donc le film est sorti en 2016 et il a reçu l'Oscar du meilleur film en 2017. C'est un film qui retrace la vie de Chiron, qui est un petit garçon donc, qui est originaire donc, de la banlieue de Miami et qui va évoluer dans un univers très violent, l'univers scolaire mais aussi familial. Il a une mère qui est addict au crack. Il est entouré de dealers de drogue, il se fait régulièrement harceler et frapper par ses camarades. C'est un film qui m'a touché à voilà, plusieurs titres. La première raison, c'est que c'est une histoire que je n'avais jamais vue racontée. Donc ce petit garçon, c'est Chiron, qui est homosexuel, qui est noir, dans les quartiers très difficiles, et qui va devoir prendre sa place. C'est une histoire qui est racontée comme un triptyque. Donc on a la première partie de sa vie qui est l'enfance, donc le petit garçon qui s'appelle Little et qui subit les brimades. On a l'adolescence avec Chiron qui a du mal à s'imposer et qui va vivre sa première histoire d'amour. Et ensuite, on a Black qui est devenu dealer et qui semble s'être trouvé, s'être assumé dans ce monde. Try to figure out all sounds. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong?
I'm good.
Come on. I didn't seem good, and you ain't it.
Remember the last time I saw you?
J'ai trouvé la réalisation incroyable. La photographie incroyable et les acteurs, vraiment à tous les niveaux de la vie, sont juste bluffants. Sensibilité, d'intelligence dans le jeu, de sobriété. Je me rappelle avoir ressenti énormément de peur pour eux, de tension, d'avoir été presque gêné par ce qui se passait. Je pense que c'est ce que je recherche dans un film. C'est ce moment où je m'attendais pas à être déstabilisé et où j'ai été complètement déstabilisé par juste une scène d'amour entre deux personnes.
Souviens-toi. Comme chaque mois, on clôt l'émission par une bribe de phrase entendue dans un café, les transports, dans la rue. N'importe quel lieu public ou un fragment de parole écouté par l'invité l'a surpris, interloqué ou amusé. Alors Kevin, quelle est ta bribe de phrase ?
Alors la bribe de phrase que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un morceau de slogan que j'ai entendu Place de la République la semaine dernière, alors que j'attendais une amie qui avait du retard. Et plutôt que de rester au café, je me suis baladé sur la place et je suis tombé sur un groupe d'une dizaine, vingtaine de militants qui étaient tous rassemblés autour d'un camion et qui, au mégaphone, hurlaient « La police mutile, la police tue ». Pas de justice, pas de paix. Moi qui étais comme ça, statique, debout, face à un rassemblement qui pouvait être soit le tout début d'un rassemblement, soit un rassemblement, je sais pas, à bout de souffle avec les 10 derniers pelés, m'a juste fait rire et m'a interpellé. Cette phrase, pas de justice, pas de paix, j'ai l'impression de l'entendre depuis que je suis tout petit. Et j'ai grandi dans une ville où, sur un des murs du quartier, en mémoire d'un des jeunes qui avait été tué lors d'une interpellation, il y avait écrit sur le mur, donc, pas de justice, pas de paix. Et je me suis juste fait la réflexion, demandé, ou je me suis surpris à penser ça, mais c'est, est-ce qu'un jour, ça s'arrêtera ?
Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été la voix enchantée du jour.
Merci à toi, Louisa, de m'avoir reçue. C'était une super expérience.
Donc, il me semble que tu voudrais clore l'émission avec une citation qui te tient à cœur, d'une autrice qui s'appelle Fatou Diomé.
C'est ça, Fatou Diomé, et c'est un extrait du Ventre de l'Atlantique. Il arrive qu'un individu devienne le centre de votre vie, sans que vous ne soyez lié à lui, ni par le sang, ni par l'amour, mais simplement parce qu'il vous tient la main, vous aide à marcher sur le fil de l'espoir.
On se retrouve le mois prochain à la même heure sur Radio Campus Paris.